le magazine des Nations Unies.
Bonjour, merci de votre fidélité et bienvenue à cette émission dont voici les titres. La paix et la stabilisation de l'Est de la RDC, une priorité fondamentale pour la MONUSCO. Déclaration à Goma de la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Madame Bintou Keïta était cette semaine dans l'Est du pays pour sa première tournée dans cette partie du territoire congolais depuis son entrée en fonction à la tête de la mission onusienne. La Journée internationale des droits des femmes, c'était le lundi 8 mars 2021. La MONUSCO et les agences de l'ONU en RDC se sont associées au gouvernement pour célébrer l'événement à Kinshasa. À cette occasion, la nouvelle patronne de la MONUSCO a joint sa voix à celle de la ministre d'État et ministre du Genre, Famille et Enfants pour faire le plaidoyer en faveur de l'effectivité des 30%, le minima légal de la représentation de la femme dans les institutions publiques. L'UHCR, l'UNFPA et la FAO dans un consortium pour des solutions durables dans la cohabitation pacifique Toa Bantou dans la province du Tanganyika. La mise en œuvre du volet alphabétisation de ce projet est confiée à la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des enfants et élèves, l'ISADEL. Dans ce magazine, vous suivrez les explications du chargé de projet de cette ONG, antenne provinciale du Tanganyika.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. La nouvelle représentante spéciale, Bintou Keïta, a fait le déplacement cette semaine de l'Est de la RDC, signant ainsi sa première tournée à l'intérieur du pays après son entrée en fonction à la tête de la MONUSCO. C'est par Goma, au Nord Kivu, qu'elle a entamé sa tournée. Et à cette étape, Bintou Keïta a déclaré que la paix et la stabilisation de l'Est restaient une priorité fondamentale pour la mission. Sifa Maguru.
La nouvelle chef de la MONUSCO dit vouloir entamer sa tournée dans la partie est de la République pour s'enquérir de la situation, mais aussi réaffirmer la volonté politique de la MONUSCO, celle de renforcer les partenariats avec le gouvernement congolais. Bintou Keïta.
Alors, une volonté politique de renforcer le partenariat positif qui existe déjà entre le gouvernorat et la MONUSCO et de particulièrement travailler ensemble sur un des aspects prioritaires de la stabilisation et de la lutte contre l'insécurité qui concerne le DDR-CS.
Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu a d'abord félicité la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour sa nomination avant de souligner l'importance des échanges qu'il a eus avec son hôte, Karline Zanzuka Sivita.
On a échangé des approches qui peuvent consolider l'autorité de l'État et nous pensons que le renforcement du système sécuritaire de notre police de l'armée, c'est une des meilleures réponses à cette transition.
Notez que dans son agenda, Madame Keïta va échanger avec différentes ONG et agences des Nations Unies basées à Goma. Elle se rendra également à Bukavu, Beni et Bunia. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Après Goma, Madame Bintou Keïta s'était également rendue le mercredi à Bukavu, où elle s'est entretenue tour à tour avec l'autorité provinciale, les membres de la société civile locale et le staff onusien œuvrant dans la province du Sud Kivu. Autre fait d'actualité, le monde a célébré le 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. À Kinshasa, la MONUSCO, représentée par sa nouvelle patronne Bintou Keïta et plusieurs agences de l'ONU, ont pris part à la célébration de cet événement organisé par le gouvernement congolais. Je l'ai dit dans le sommaire, la représentante spéciale a joint sa voix à celle du ministre d'État et ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomeya, pour inviter le chef de l'État à respecter le quota minimum de 30% des femmes dans le prochain gouvernement. Suivez d'abord le plaidoyer de la ministre d'État Lomeya elle-même s'adressant à la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour qu'elle intercède à ce propos auprès du président de la République.
Nous sommes effectivement au moment des enjeux où des postes vont être nominatifs. Ce n'est pas des postes électifs. Pour les postes électifs, nous disons aux femmes, nous devons nous battre au même titre que les hommes. Mais les postes nominatifs, maman, il faut être la gendarme derrière les chefs de l'État. Et c'est avec cela même. Nous avons suivi dans les messages du secrétaire général, lorsque les femmes sont nombreuses dans la gouvernance, les mesures de protection sociale sont nombreuses et la pauvreté régresse. Donc c'est vraiment avec raison que nous voulons que cette disposition soit d'application et donc nous espérons que dans les prochains gouvernements, dans les entreprises publiques, dans la diplomatie, dans toutes les autres structures, la représentation de la femme soit effective et que la parité soit respectée. C'est les pays qui vont en tirer bénéfice.
Suivons aussi à son tour la représentante spéciale Bintou Keïta dans le même plaidoyer.
Les discussions en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement sont un moment clé qui permettra à la République démocratique du Congo de faire une grande avancée vers une meilleure représentation des femmes dans le respect de la loi. Nous n'attendons pas moins du prochain gouvernement et encourageons le Premier ministre Sama Lukonde dans ce sens. Nous devons toutes et tous continuer les efforts en vue d'améliorer la représentativité des femmes dans la sphère publique et privée. Je me réjouis que dès le début de sa présidence de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, ait témoigné d'une volonté ferme pour une Afrique plus inclusive et respectueuse de la dignité humaine, notamment celle des femmes et filles.
Restons encore dans la Journée internationale des droits des femmes, en allant cette fois-ci à New York, où dans son message, à l'occasion de cet événement, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que la pandémie de COVID-19 a anéanti des dizaines d'années de progrès en matière d'égalité de sexe. Plus de détails sur le message du secrétaire général dans ce condensé d'Alain Erung.
Cette année, la Journée internationale des femmes met en avant le pouvoir de transformation que recèle la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Nous le voyons ici même à l'ONU, où je suis fier que nous ayons atteint pour la toute première fois la parité des sexes au poste de direction. Les faits sont là. Quand les femmes gouvernent, l'État investit davantage dans la protection sociale et la pauvreté régresse plus vite. Quand les femmes siègent au Parlement, les pays sont plus fermes dans leur politique de lutte contre les changements climatique. Quand les femmes participent aux négociations de paix, les accords sont plus durables. Et depuis que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes aux plus hautes fonctions de l'organisation, notre action en faveur de la paix, du développement durable et des droits humains est encore plus concertée. Dans un monde dominé par les hommes, empreint d'une culture essentiellement masculine, l'égalité des sexes est en réalité une question de pouvoir. Les hommes sont une partie indispensable de la solution.
Are an essential part of the solution.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À l'occasion toujours de la Journée internationale des droits des femmes, le CICR et le réseau Giving Women ont organisé le 8 mars une table ronde en ligne sur la violence sexuelle contre les femmes en République démocratique du Congo. Guérison, justice, prévention. Madame Sarah Kenati est responsable du programme de lutte contre les violences sexuelles du CICR en RDC et répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala à la suite de cette table ronde.
Madame Sarah Kenati, bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le CICR et le réseau Giving Women ont organisé le 8 mars dernier une table ronde sur le thème « La violence sexuelle contre les femmes en RDC, guérison, justice, prévention ». Qu'est-ce qui a été dit en grande ligne sur ce thème, madame ?
Eh bien, tout d'abord, ce panel, c'était l'occasion pour des acteurs humanitaires de terrain qui travaillent en RDC, qui travaillent depuis longtemps en RDC, de s'asseoir ensemble et de partager leur expérience, leurs défis face à la problématique, mais aussi spécifier dans quel champ d'activité chacun s'inscrit, en fonction de nos mandats respectifs et nos orientations. C'était aussi très important, je pense, pour les membres de l'organisation Giving Women, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe concrètement en RDC par rapport aux violences faites aux femmes et aux filles, les conséquences de cette violence, et surtout quels sont les besoins des survivants et comment on peut faire avancer, comment on peut aller plus loin pour améliorer les choses. En gros, l'occasion, c'était de chacun partager un petit peu nos connaissances, puis de dialoguer avec cette organisation Giving Women qui est particulièrement soucieuse d'apporter un soutien aux femmes et aux filles dans le monde. C'est un réseau de femmes très généreuses qui étaient vraiment intéressées et à l'écoute de ce qui se joue en RDC.
Donc la violence sexuelle et sexiste continue d'être un problème en RDC, comme partout ailleurs d'ailleurs.
Ça continue à être un problème, vous avez raison, comme partout ailleurs. Ce qui est un petit peu plus compliqué, je dirais, en RDC, c'est que c'est une problématique qui s'inscrit dans le temps. C'est un problème qui a été lié au conflit au départ, et pour beaucoup, et cela continue, et puis là on est quand même sur plusieurs décennies de ce conflit qui perdure, avec les femmes et les filles qui en payent le prix fort, je dirais. Et l'autre point, c'est que c'est aussi, ça commence à prendre une ampleur sociétale en RDC. C'est-à-dire que le viol et la violence basée sur le genre en général, hein, il y a comme une banalisation de l'acte. C'est plus quelque chose qu'on va retrouver, si je puis dire, sur le champ de bataille uniquement. On va le retrouver dans diverses couches de la société qui vont atteindre beaucoup plus de personnes, d'ailleurs pas que des femmes et des filles. On en parle beaucoup parce qu'elles sont les plus affectées par ce type de violence, mais les hommes aussi sont concernés. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance au niveau des droits, que les femmes et les filles connaissent de leurs droits et de leur possibilité d'accéder à ces droits. C'est pour ça que c'était aussi intéressant de discuter avec Julienne Lusengue de Sophie Paddy. Il y avait Maître Claudine Tsongo de la dynamique des femmes juristes. Il y avait Maître Nelly Mbangu de l'association Sauti Yamama Mukongomani qui travaille depuis vraiment très longtemps. C'est un travail de longue haleine. Hein. C'était très important, je crois, pour le CICR de s'asseoir aussi avec des organisations locales, de pas être seulement une organisation internationale, mais d'avoir aussi des actrices locales qui mettent en avant le leadership féminin, qui mettent en avant l'importance d'entendre la voix des femmes, de la porter autant que possible et surtout, effectivement, de travailler sur l'accès aux droits pour les femmes et les filles, leur information à ce sujet. Et puis, elle travaille aussi beaucoup sur l'implication des femmes dans le processus de paix, ce qui est un angle aussi très intéressant. C'était très chouette à écouter.
Oui, si je comprends bien, ce que vous avez dû faire au cours de cette étape ronde, l'état des lieux en ce qui concerne la violence sexuelle contre les femmes dans le monde et en RDC particulièrement. Quel était votre objectif finalement au-delà de cette étape ronde?
Je crois qu'il y avait plusieurs objectifs. D'une part, c'est sensibiliser sur la question. On est aussi en pleine période de Covid. La tension médiatique est énormément, je parle au niveau international, hein, énormément centrée sur la pandémie, ce qu'on peut comprendre, sauf qu'on oublie que le Covid n'a pas mis un terme au conflit. Le Covid n'a pas mis un terme à la violence faite aux femmes et aux violences basées sur le genre. Et que du coup, c'était important aussi de donner une attention à cette problématique, de mettre la lumière sur ce qui se passe pour pas que ces victimes tombent dans l'oubli. Pour pas qu'on oublie non plus les organisations qui travaillent sans relâche sur la question et qui ont encore besoin de soutien et d'attention internationale. Ça, c'était une chose. Il y avait aussi l'idée que ces panels-là, ma foi, c'est aussi l'occasion de porter la voix des victimes à travers nos voix, à travers nos expériences. Cette approche qui était intéressante, je dirais, acteur international, nationale, actrice locale, comment on est complémentaire, comment on travaille sur des sujets communs mais de façon différente en fonction de nos mandats.
Oui, mais il a été dit lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme que le Covid a amplifié les violences contre les femmes.
Oui, ça c'est une observation qu'on a vue à travers le monde, effectivement, c'est bien de le rappeler. Hein. On va dire que les violences basées sur le genre, effectivement, on a vu une hausse due aux mesures de confinement où, effectivement, on a vu une augmentation des violences, surtout domestiques, à l'intérieur des foyers. Ouais.
Vous avez fait le constat, alors quelle est la part du CICR dans la lutte contre ces fléaux, dans ces trois axes que vous avez développés, guérison, justice et prévention? Je parle de la RDC.
Le CICR a une approche qu'on qualifie centrée sur le survivant. Tout d'abord, c'est-à-dire qu'on considère que chaque victime est unique et qu'elle a des besoins uniques. Donc on essaye d'avoir une approche la plus holistique possible, mais qui met la personne au centre. C'est-à-dire qu'on la met aussi en position un petit peu de décider, d'exprimer ses besoins. On a une écoute communautaire, on met la personne au centre, on entend ses besoins, ses craintes, ses peurs et ce qui lui est arrivé. Et on essaye d'y répondre un petit peu sur mesure pour qu'elle puisse avoir toute la discrétion dont elle a besoin, toute la confidentialité, qu'elle puisse avoir accès à de l'assistance. Alors nous, le CICR, on a une spécificité du fait de notre mandat, c'est qu'on a un dialogue bilatéral et confidentiel avec les porteurs d'armes. Donc quand ces derniers sont des auteurs de violences sexuelles, on adresse cette problématique et on travaille sur ça avec eux dans notre travail de prévention. Au niveau de ce qui est réponse, là on a une approche médicale, on va soutenir des structures de santé en RDC, on soutient aussi des structures de prise en charge psychosociale. psychosocial. On a un soutien aux maisons d'écoute, mais on fait aussi du psychosocial qu'on appelle l'approche intégrée dans des lieux de soins. Hein, on fait la réponse médicale et santé mentale au même endroit, tout en gardant notre approche maison d'écoute, qui est un bel ancrage communautaire. Et on a une réponse également socio-économique, c'est-à-dire qu'on essaye de donner aussi une assistance cash aux victimes. On a deux types d'assistance cash. On a une qui répond à des besoins imminents, urgents, pour éviter que la personne se mette en danger et recourt à des, on va dire, des stratégies négatives pour survivre et qu'elle s'expose à d'autres risques. Et on a une autre approche qui est plus sur le long terme. On essaye d'accompagner la personne pour qu'elle ait une réintégration sociale via un soutien économique. Retrouver un emploi, retrouver une place dans la société, je dirais retrouver sa dignité. Parce que ce qui est le plus fort aussi, assez impressionnant en RDC, c'est la question de la stigmatisation des victimes. C'est presque une deuxième violence pour la personne. C'est-à-dire que non seulement elle a été une victime de la... En plus, elle est ostracisée, elle est rejetée. Et du coup, on essaie vraiment d'inclure dans notre approche cette dimension sociale pour qu'elle retrouve une place dans la communauté et qu'elle ne soit pas mise à l'écart.
Ce mois de mars, quel message voudriez-vous partager avec les femmes de la RDC, particulièrement les jeunes congolaises, par rapport aux droits de la femme en tant que CICR?
Je pense que ce qui est le plus important en RDC et ce qui manque le plus, c'est que les femmes et les jeunes filles aient connaissance de leurs droits. C'est qu'elles aient accès à ces droits-là, mais qu'elles soient informées. Je pense qu'il y a encore un travail de vulgarisation au niveau des textes de loi pour que tout le monde en prenne conscience et qu'il y ait la possibilité que les choses avancent à ce niveau-là. Même s'il y a beaucoup de besoins, il y a aussi une présence sur le terrain d'acteurs, de plein d'acteurs, d'acteurs internationaux comme nous, mais aussi des acteurs locaux. Il faudrait que toutes les jeunes congolaises puissent avoir accès à ces acteurs, à ces services qui sont disponibles. Il y a beaucoup de cliniques juridiques, il y a beaucoup d'acteurs. Nous, le CICR, on a une présence. Alors, elle est beaucoup plus liée au conflit. Donc, cela n'empêche pas. On travaille quand même avec des jeunes femmes et des jeunes filles, mais on est moins dans cette démarche de justice que d'autres vont proposer. Mais dans notre travail de sensibilisation, on essaie quand même de rappeler les conséquences du viol, les besoins des victimes, là où elles peuvent trouver du soin. L'importance de rappeler, pour nous, le plus important, c'est effectivement de promouvoir le droit humanitaire international, qu'il soit respecté par les porteurs d'armes. C'est là où on va mettre l'accent. Et si j'ai un message à partager avec les jeunes femmes congolaises, c'est qu'elles font partie entièrement de la société, elles ont une place à part entière, il faut qu'elles s'y inscrivent, il faut qu'elles soient reconnues, il faut qu'elles portent leur voix, quels que soient les moyens.
Madame Sarah Kenati, merci.
Je vous en prie.
En plus bref, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a remis le 6 mars dernier des intrants à 3 sites de traitement de COVID-19 de Matadi au Congo central. Selon le bureau de l'OMS Matadi, cette dotation a pour objectif l'amélioration de la prise en charge des malades atteints du coronavirus dans ces centres de traitement et le bon fonctionnement de ces sites. Volet sécuritaire. En vue de protéger les populations civiles à Beni, au Nord Kivu, la MONUSCO va renforcer ses unités de réaction rapide dans la région dès le 1er avril prochain. Les compagnies de génie militaire bangladais et indonésien préparent depuis la semaine dernière les casernes devant abriter ces unités qui pourront être déployées à tout moment dans d'autres régions affectées par les groupes armés. À la Cour pénale internationale CPI, le Congolais Antoine Kessiambé Mindoua a été élu deuxième vice-président au cours d'une séance plénière tenue jeudi 11 mars 2021. Le juge Antoine Kessiambé Mindoua s'est dit reconnaissant envers ses collègues qui lui ont confié une responsabilité importante. Par ailleurs, les juges de la Cour pénale internationale CPI ont élu en séance plénière M. le juge Piotr Ofmanski, en tant que président de la Cour pour une durée de 3 ans avec effet immédiat. Madame la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza a été élue première vice-présidente et Monsieur le juge Antoine Kessiambé Mindoua, second vice-président.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité du magazine des Nations Unies, c'est Edgar Matisseau, de la société civile de Butembo, qui se félicite de la tenue du procès sur le dossier de l'assassinat du médecin de l'OMS, le Camerounais Richard Moussoko, qui avait été abattu en 2019 à Butembo, en pleine campagne de riposte contre Ebola. L'acteur de la société civile déplore cependant que le verdict n'ait pas pris en compte, selon lui, la famille du défunt. Edgar Matisseau s'entretient avec Florida Kahambu.
Edgar Matesso, bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez accueilli les jugements rendus dans le procès sur l'assassinat du docteur Richard Muzoko par la Cour militaire du Nord Kivu?
Nous félicitons d'abord la Cour d'avoir organisé ces audiences à Chambre foraine à Butembo. Heureusement que finalement le procès a été organisé et nous nous en réjouissons.
Quelle appréciation par rapport au déroulement même de ce procès?
Nous avons sollicité que les audiences soient publiques. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons même demandé que les audiences soient médiatisées. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous pensons également qu'il fallait venir certaines victimes de ces audiences. Par exemple, l'épouse du docteur qui avait été assassiné. Elle pouvait suivre de près les procès. Ou alors même l'OMS qui avait perdu son agent. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour l'organisation du procès. Et faire tout pour atteindre les personnes qui n'étaient plus sur place. Par exemple, le docteur Mundama qui avait officiellement annoncé qu'il voyageait, on aurait souhaité quand même que l'on fasse tout pour l'atteindre où il était et le faire venir.
Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont ce procès s'est déroulé?
C'est difficile de le dire dès lors qu'il y a déjà certaines personnes qui sont condamnées et d'autres qui ne se sont pas présentées, mais il y a quand même certaines observations que nous pourrions présenter. Tout d'abord, toutes les personnes qui devait être là ne s'était pas présenté, donc on n'a pas suivi la requête de la partie civile qui serait l'OMS ou la famille de la victime. Quand vous suivez même le prononcé du jugement, vous sentez qu'ils n'ont pas été indemnisés. À ce niveau-là, nous trouvons que ça ne tient pas parce que l'OMS qui a perdu son agent et même la famille qui a perdu un père devait aussi trouver sa part à terme d'indemnisation de la victime et même l'UCG qui réclamait un certain montant. Ce montant a été sensiblement 400 000 dollars à 15 000, ça a été réduit et on aurait souhaité quand même qu'on nous dise comment ces gens s'étaient organisés, à partir d'où ils ont trouvé l'arme et celui qui leur avait facilité à accéder à avoir l'arme. On devrait savoir comment ils ont eu cette arme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui leur a doté de cette arme, mais bon, on ne sait même pas la destination de cette arme. Donc tous ces éléments auraient dû être trouvés. Nous aurions également souhaité que le procès soit organisé dans son ensemble en tenant compte du contexte général à l'époque, parce qu'il était question d'une des victimes de la riposte d'Ebola. Le docteur Muzoko, qui était un médecin engagé dans la riposte, on sait qu'il y a eu d'autres victimes pendant cette riposte. Je pense ici au médecin qui travaillait au CTE Beni, qui avait été tué à Kabasha, à l'infirmier titulaire du centre de santé Isonga, à zone de santé de Vuhovi,
dans
la chefferie de Bashu, à territoire de Beni. Je pense ici à un tradit praticien qui avait été tué à Muchanga, dans la zone de santé de Katwa, à ville de Butembo. Beaucoup de relais communautaires dont leur maison avait été incendiée par des inconnus. On aurait souhaité par exemple que toutes ces victimes soient prises en compte dans ce procès et que l'on voie s'il y a des liens entre ceux qui auraient commandité la mort de Dr Richard et ceux qui ont commis ces autres forfaits s'ils étaient indépendants. Je pense également à une dame qui travaillait au compte de l'OMS qui avait été victime lorsqu'on avait attaqué la base de l'OMS à Biakato, dans la zone de santé de Mandima, à province de l'Ituri. Et donc, toutes ces victimes-là, on aurait souhaité qu'on prenne en compte l'organisation des procès, à moins que la Cour ne nous dise que dans les jours qui vont suivre, on va organiser les procès pour toutes ces personnes-là. Sinon, nous risquerons de dire qu'il faut être étranger pour que votre procès soit organisé, ce qui n'est pas bon.
Alors, qu'est-ce que vous recommandez?
Nous voudrions que la justice puisse continuer à documenter les autres éléments dont j'ai fait allusion, notamment les autres victimes de la riposte, et que les procès soient organisés. Et nous voudrions que la justice puisse améliorer ce mode de travail pour permettre à ce que la population puisse avoir confiance à elle et recourir chaque fois à elle, toutes les fois qu'elle en a besoin.
Monsieur Edgar Matesso, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est plutôt à moi de vous remercier.
Tanganyika, trois agences de l'ONU ont formé un consortium dans le cadre d'un projet dénommé « Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twa et Bantou », un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mise en œuvre dans son volet alphabétisation par la LISADEL. Chirac Mushinta, chargé de projet à l'antenne Tanganyika de cette ONG, apporte un éclairage sur ce programme.
C'est un projet qui est financé à 3 agences des Nations Unies, dont le LEAD, c'est les ACE, et puis les UNFPA et le FAO en consortium. Ils ont été financés par les Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, et la LISADEL a reçu mandat de mettre en œuvre ces projets dans le cadre de l'alphabétisation fonctionnelle. Et ce projet dont il est question, c'est le projet intitulé « Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twa et Bantou dans la province de Tanganyika ». Le projet est implémenté dans 4 territoires, Kalemi, à Nyunzu, à Manono et Moba. Pour cette alphabétisation fonctionnelle, ça va nous permettre à nos jeunes filles, jeunes sœurs, d'améliorer leur façon dans le quotidien, dans le but de réduire les inégalités socio-économiques. Ils vont apprendre les métiers, ils vont faire l'entrepreneuriat.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée par Jean-Pierre Elali Ikoko à Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, ainsi que la réponse de ces derniers.
Puisque vous parlez de la contribution, selon la presse, l'Union Européenne vient de débloquer 500 millions d'euros supplémentaires en faveur du programme COVAX, vous l'avez dit. Quelle est la part de la RDC dans ce montant?
Pour être très précis sur les chiffres, nous avions annoncé un financement en premier de 500 millions d'euros. Le 19 février dernier, Ursula von Leyen, la présidente de la Commission Européenne, a annoncé un doublement de cette contribution, de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Ensuite, nos États membres, dont l'Allemagne, apportent 1,2 milliard d'euros. Donc la Team Europe, les États membres de l'Union Européenne apportent 2,2 milliards d'euros au COVAX. Ensuite, ce qui est financé, ce ne sont pas des allocations financières pour les pays, mais c'est l'achat de doses de vaccins. Et ce qui est distribué, ce sont des doses de vaccins, ce sont des vaccins. Et donc, je ne peux pas vous dire exactement la part de l'Union Européenne, mais elle est très importante. Dans les vaccins, dans les 1,7 million de vaccins qui ont été amenés en RDC, il y a une très large part qui a été financée par l'Union Européenne.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux dates à retenir pour cette semaine. 15 mars, journée internationale des droits des consommateurs. 20 mars, journée internationale de la francophonie. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site www.radiokapi.net. Radio Kapi en émo. Coordination, Honoré Missenga Kalala. Présentation, Expedi Mwamba Mubi. Merci de votre attention. Restez branchés pour la suite des programmes sur la radio de la paix.